Et Bourrique a tout faire chez les manants comme chez les proéminents, de Rome jusqu'en Amérique et dans les autres continents. Son avenir est chimérique pour le spectre du numérique qui l'épie à tous les tournants. Qu'on le cravache ou qu'on le hue, allez hue, il renacle, le rue, il ne peut que suivre son train. Cher vieillard, aux beaux yeux de fée, braise à la mort, toi qui, sans frein, saillis la cavale d'Orphée.
Quelques vers de Jacques Reda pour témoigner de la vitalité de la poésie en français et tout particulièrement de la poésie en vers, car depuis longtemps, Jacques Reda défend cette forme poétique et nous le raconte dans un essai au titre mystérieux intitulé « Quel avenir pour la cavalerie ». Bonjour Jacques Reda.
Bonjour.
Que veut dire ce titre ?
Ah, ce titre, écoutez, je l'explicite dans l'avant-propos du livre. Alors, ça vient tout simplement du fait que j'ai passé mon enfance dans une ville de garnison avant la guerre, c'est-à-dire où il y avait deux régiments de cavalerie et un régiment d'artillerie hippomobile encore, et que mon père lui-même, au début, quand j'étais enfant, était officier d'artillerie. Donc j'ai vécu dans cette ambiance militaire, sous les auspices de la vieille cavalerie française, et je compare dans l'avant-propos la masse des vers qui ont été écrits depuis les origines de notre langue.
Par milliards.
À des véritables régiments d'infanterie, bien rangés, bien ordonnés, à la parade, ou pour monter en ligne. Tandis que, avec la disparition du vers régulier, il y a eu un émiettement et il n'est plus resté que des petites unités de cavalerie indépendantes qui guerroient chacune de son côté, sans état-major central. Et donc, il y a forcément une déperdition des choses. Alors, je voudrais préciser quelque chose aussi, c'est que je n'attaque personne, je ne défends rien, c'est une étude aussi objective que possible, parce que le vers, je l'ai pratiqué sous toutes ses formes depuis l'âge de 14 ans, autant que je me souvienne. Et ça a été d'abord un vers régulier que je connaissais mal, que je pratiquais très mal. Et puis, peu à peu, je me suis appliqué. Ça s'apprend facilement à écrire des vers. Ce langage particulier qu'est le vers syllabique français, c'est simple comme bonjour. Hein.
Et il vous semble important de raconter l'histoire du vers français que vous avez pratiqué, mais que vous n'avez pas inventé.
Non, bien sûr. Et c'est important de faire un bilan au bout d'un certain temps, c'est-à-dire au bout de 1000 ans quand même. Alors, j'ai voulu savoir où on en était et pourquoi on en était arrivé là. Alors, la question fondamentale, ce n'est pas du tout la question de la poésie. La poésie, personne ne peut en donner une définition. On en donne des définitions à chaque génération, à peu de choses près. Mais c'est celle du langage, et en particulier de la langue, et de la langue française. Tout part de là. Je pense que le vers est une structure fixe qui est née progressivement de la pratique d'une langue. Les langues savent ce qu'elles font. Et on est arrivé à un moment où la langue se dégrade. Il faut considérer que presque tous les phénomènes sont assimilables à des organismes. Une langue est un organisme qui se développe comme le nôtre. Une langue naît, se développe, s'épanouit, et puis périclite, et puis finalement disparaît. Combien de langues ont disparu depuis le début des âges ?
On en est là, actuellement, selon vous ?
On en
est là. Au bord de la disparition ?
Oui, en un sens, oui, je pense que dans 100 ans, 150 ans, on parlera plus le même français que maintenant. Ça a toujours été le cas. Mais il y aura une déperdition beaucoup plus considérable, des changements. Et tout ça, c'est dû au mouvement de population. Il suffit d'écouter la radio, je m'en excuse, d'écouter la télévision, d'écouter ce qui se dit dans la rue. Le français véhiculaire s'est transformé depuis déjà un bon moment. Est-ce que nous, les écrivains, faisons, c'est du latin, c'est une forme de latin. D'ailleurs, Larbaud disait déjà, dans une lettre à André Gide, il le disait déjà dans les années 1930.
Alors dans cet essai, Jacques Reda, vous vous interrogez pour savoir quelle langue sera parlée en 2980. Alors je ne sais pas pourquoi cette date, mais c'est vous qui l'a fixée. Bon. Et vous répondez à une compote.
Oui, une compote à partir de tous les éléments qui existent encore maintenant, c'est-à-dire des restes plus ou moins importants de français. des proliférations des anglicismes qu'on ne peut pas ne pas remarquer à présent, et puis d'autres langues. Moi, j'habite un quartier assez africanisé, et j'entends souvent dans la rue, dans le métro, dans l'autobus, des dialectes ou des langues africaines assez différentes, qui se mélange avec du français. Dans le français, tout à coup apparaît le mot sécurité sociale, ou des choses comme ça. Alors, c'est à la fois touchant, et il y a un effort de part et d'autre pour essayer de se comprendre.
Hein. Mais cela vous pose pas vraiment problème, hein. Vous n'êtes pas un puriste absolu de la langue.
Non, moi, alors, attendez. Les langues disparaissent. Le latin, en France, a disparu. C'est une langue morte, comme on dit maintenant. Très bien. Autre chose est née. Les gens dans le territoire de ce qu'était la France à l'époque parlait on ne sait pas très bien quoi, mais ça devait être d'une région à l'autre, d'une commune à l'autre peut-être. Alors, si une langue disparaît, c'est parce qu'il y en a une autre qui se... C'est une métamorphose.
Alors, s'il y a quand même un danger que vous pointez, Jacques Reda, dans cet essai, c'est ce que vous appelez la langue des robots.
Oui.
C'est-à-dire l'informatique. C'est-à-dire oui. Que là, la langue est en danger. Oui. Pas tant le français, mais la langue.
Le langage. Le langage articulé, je dis bien, on ne sait pas ce qui va se passer. Tous les jours, il y a des innovations dans la technologie qui sont comme toujours à double tranchant. Et on ne sait pas du tout ce qui va se passer, ni si un jour, il n'y aura pas une communication directe de cerveau à cerveau. Hein, ça, on en est là. Chaque jour, la science-fiction vérifie son imaginaire.
Du vers français inventé il y a un millier d'années à la science-fiction. Nous sommes aujourd'hui avec vous, Jacques Reda. Et j'ai fait un petit détour du côté de la collection Poètes d'aujourd'hui. Vous figurez, bien évidemment, c'est cette collection fondée par Pierre Seghers au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Il y a à peu près 300 références. Il y a vous, et puis il y a aussi Serge Gainsbourg.
Black trombone, monotone, le trombone, c'est joli, tourbillonne, gramophone, et bâillonne. Black trombone, monotone, autochtone de la nuit. Dieu pardonne la mignonne qui fredonne dans mon lit. Black trombone, monotone, elle se donne à demi nu, frissonne, déraisonne, m'empoisonne, m'envahit. Black trombone, monotone, c'est l'automne de ma vie. Plus personne ne m'étonne, j'abandonne, c'est fini.
Serge Gainsbourg, Black Trombone, extrait de son quatrième album sorti en 1962, aujourd'hui sur RFI, et si nous l'avons choisi, Jacques Reda, c'est parce qu'il y avait une petite coloration jazz dans oui. cette chanson, et le jazz, c'est votre affaire.
Oh, c'est mon affaire.
Comment c'est pas votre affaire?
Non, malheureusement, le jazz tel que je l'entends, je ne sais pas de qui l'affaire il est maintenant, parce que je ne connais plus beaucoup d'amateurs comme moi. Peut-être, je manque de relations, c'est possible. Le jazz, c'est une forme de langage, c'est une forme de langage musical. Eh ben, c'est pareil, c'est un organisme. On voit très bien comment, sans exister, les éléments de sa réalisation possible existaient, se sont rejoints. Et il s'est formé, et il est né, peu à peu, s'est développé, il a culminé à un moment, et il a assez rapidement décliné et disparu. On appelle jazz maintenant des musiques qui n'en sont pas, si on peut donner des choses, une définition raisonnable. Ça n'existe plus. On appelle jazz parce que l'étiquette est vendeuse, comme on dit maintenant. Et puis finalement, on n'a pas trouvé d'autre chose, parce que c'est tellement différent ce qui existe sous le nom de jazz, qu'il n'y a absolument plus d'unité concevable.
Donc vous faites un parallélisme entre jazz et poésie, ou en tout cas entre jazz et vers.
Je fais un parallèle en tout ce que je considère comme des organismes. C'est la même chose en architecture. Il y a eu l'organisme roman, l'organisme gothique, l'organisme classique. C'est une évolution perpétuelle, un déclin, mais un déclin d'où sort quelque chose de nouveau, peu à peu, imparfait au début.
Alors, dans votre essai « Quel avenir pour la cavalerie ? Une histoire naturelle du vers français », c'est le sous-titre, Jacques Reda, vous citez ce vers de Mallarmé, « On peut à la musique égaler l'art des vers ».
Oui.
Donc c'est bien un peu la même chose. Qu'est-ce qui fait lien ? C'est le rythme ?
Non, il y avait de la part de Mallarmé un parti pris tout à fait explicable à l'époque contre la poésie qu'il avait précédée, le romantisme un peu outrancier de Musset, d'autres poètes. En effet, il y a une part musicale, si on veut, mais dans la langue, pas seulement dans le vers, simplement dans le vers, elle est plus ordonnée. Elle est en principe ce qu'on cherche, à avoir une harmonie, mais c'est tout le rapport qu'on peut faire avec la musique.
Quand vous publiez votre premier recueil de poésie, je crois que c'est en 1968, Amen, vous dites que c'est par devoir pour les musiciens de jazz que vous écrivez de la poésie et que vous la publiez.
Oui, parce que ces gens-là m'ont énormément donné, encore maintenant. Il y a peu de jours où je ne passe pas au moins une demi-heure à réécouter. C'est des frères pour moi.
« Nul seigneur je n'appelle et pas de clarté dans la nuit. La mort qu'il me faudra contre moi dans ma chair prendre comme une femme et la pierre d'humilité que je dois toucher en esprit le degré le plus bas, la séparation intolérable d'avec ce que je saisirai terre ou main dans l'abandon. » Quelques vers de Amen. Il y a du jazz là.
Pas du jazz, non, mais pourquoi voulez-vous qu'il y ait du jazz dans la langue française, qui est une langue d'une accentuation totalement différente de celle de l'anglais? Il faut se représenter une chose, le jazz n'aurait pas existé si, malheureusement d'ailleurs, s'il n'avait pas eu l'esclavage, impliquant la déportation, on peut employer le mot, de tant d'Africains aux États-Unis pour travailler dans les champs de coton, poser les rails, et enfin tous l'esclavage en quelque sorte, et s'il n'y avait pas eu conjointement la langue anglaise. La langue anglaise est apte au swing, au rythme du jazz, beaucoup plus que la française ou que les langues latines en général. Il suffit d'entendre parler les Américains ou les Anglais.
Alors on va parler de la langue française, mais avant, juste comme ça, un petit détour encore vers le jazz. Quel est le morceau, le titre que vous auriez envie de nous faire écouter dans cette émission sur RFI, Jacques Reda ?
L'embarras du choix est considérable, mais enfin, a priori, je dirais par exemple Out of Nowhere, un thème enregistré par Coleman Hawkins en 1937 à Paris, justement, ça tombe bien, et avec Django Reinhardt en section rythmique et Benny Carter à la trompette. Je précise, Coleman Hawkins est un saxophoniste ténor.
Thank you.
Jacques Reda, vous avez beaucoup écrit sur le jazz, mais votre livre du moment est cette histoire naturelle du vers français, qui est une histoire sensible de la poésie, qui est à la fois un livre de poète, mais aussi un livre de lecteur, par que vous citez beaucoup de poètes anciens ou contemporains. Néanmoins, vous nous donnez des éléments pour comprendre ce qu'est le vers, et vous nous rappelez, c'est connu, mais je l'avais oublié, l'origine latine du mot vers.
Oui, bien sûr, oui, c'est-à-dire... Il y a deux verbes, hein, il y a versare et vertere, alors, qui ont des points communs, c'est-à-dire, au fond, c'est quelque chose qui tourne. Enfin, en tout cas, il y a l'idée de tourner autour, de se tourner vers. Le mot vers lui-même, quand je tourne vers quelqu'un, il y a une parenté avec le mot vers, qui est cette réalité de langue écrite, en tout cas, où vous parlez aussi, qui existe sous ce nom de vers.
Oui, il y a l'idée du mouvement.
Et le français, qui n'a pas une accentuation considérable, sauf en général sur la dernière syllabe, le français qui est un peu plat, est une langue plutôt de conversation, et dans conversation, vous avez cum versere ou vertare, c'est-à-dire parler vers quelqu'un, avec quelqu'un. Le français est plutôt une langue de conversation, de raisonnement, qu'une langue vraiment lyrique. Donc l'alexandrin, en particulier, a fixé cette chose-là.
Mais il y a deux choses. Il y a le vers qui est inventé au XIe siècle, à peu près, et puis l'alexandrin qui arrive beaucoup plus tard.
Oui. Le premier vers le plus courant de la langue française, d'abord, il est sorti aussi indirectement de certains maîtres latins, qui étaient beaucoup plus complexes. C'est de l'octosyllabe et le décasyllabe. Le décasyllabe, c'est la chanson de Roland. L'octosyllabe, c'est aussi beaucoup certaines épopées. Et puis, le début du roman, Chrétien de Troyes, ces romans sont en octosyllabes, qui prouvent aussi que le vers est une façon de retenir l'attention, de remplacer le fil, peut-être, de ce qui pourrait être une intrigue très travaillée, et non pas seulement une succession d'aventures.
Et l'alexandrin ?
L'alexandrin a existé conjointement aux deux autres maîtres que j'ai cités, l'octosyllabe et le décasyllabe. Mais on le trouve un peu plus tard, mais à peine, hein, c'est différent d'un demi-siècle ou quelque chose comme ça, dans une seule épopée, le début d'une épopée, qui s'appelait le roman d'Alexandre. Le roman d'Alexandre est écrit en alexandrin, mais c'est une œuvre qui a été collective en quelque sorte, qui a été retravaillée, où on a ajouté des quantités d'épisodes jusqu'au début du XVe siècle. Et ça s'était cantonné là, uniquement. C'est pourquoi on l'appelait l'alexandrin, parce que c'était le vers du roman d'Alexandre. Et on peut dire qu'il était mis en réserve, en quelque sorte, d'une sorte de caisse d'épargne, par la langue, pour le moment où on commencerait à se fatiguer ou s'userait le décasyllabe, qui réellement s'est usé, tandis que l'autosyllabe est resté assez vigoureux, même de nos jours.
Et donc il est revenu...
Et alors il est revenu progressivement, on l'a redécouvert vers la fin du XVe siècle, des gens comme le maire de Belge et autres... Jacques Roubaud a très bien étudié la question dans un livre qui s'appelle « La vieillesse d'Alexandre », justement.
Et dans ce livre, Jacques Reda, vous nous rappelez que l'alexandrin a cette capacité d'être beau. C'est quoi la définition de la beauté pour le poète que vous êtes ?
Ben j'en sais rien. Non. Qu'est-ce qu'un beau vers ? C'est difficile à définir. Ou si on le définit, alors c'est fini, il n'y a plus de beauté, parce qu'il y a des recettes pour l'obtenir. C'est quelque chose qui nous saisit sans qu'on sache pourquoi. C'est peut-être la question de la poésie, et je pense que c'est ça. C'est quelque chose qui nous retient. On ne peut pas savoir. Si on cherche à savoir pourquoi, on se trompe, parce qu'on va donner des définitions qui ne correspondront pas.
Dans un autre moment du livre, vous rappelez ce qu'est la poésie, en fait, et vous dites là, c'est mesurer la part non mesurable du monde.
Maintenant, c'est devenu surtout ça, et c'est ce qui explique en partie ce qu'on pourrait appeler l'échec de la poésie de nos jours. Très longtemps, la poésie, très longtemps, mais on peut dire même presque jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, la poésie, c'était ce qui était écrit en vers, peu importe le sujet. Des classements de sciences naturelles ou même élémentaires pour la vie en société, c'était de la poésie, c'était écrit en vers. Il y avait un côté utilitaire du vers. Le vers mesurait une quantité de choses utiles, nécessaires, mais du jour où il est remplacé par les définitions que donne la technique, et en sciences, en particulier en sciences physiques de l'algèbre, il n'a plus rien à mesurer que ce qui n'est plus mesurable, c'est-à-dire le pourquoi des choses.
Jacques Reda, vous avez écrit en vers réguliers pour l'essentiel, votre œuvre. Vous avez aussi beaucoup écrit sur Paris, belle ville où vous vivez, les faubourgs de Paris aussi. Et en cela, vous êtes proche d'un autre poète qu'est Jacques Roubaud.
La marche est pour moi quelque chose d'essentiel parce que je peux travailler en marchant. Mon principe est de marcher dans les rues parce que c'est comme ça que je compose de la poésie. Donc, c'est la marche. Mais par ailleurs, une partie des choses que je vais composer va venir de ce que j'aurais vu. Or, dans les rues, il n'y a pas seulement que des objets, des passants, et des arbres, des réverbères, des automobiles. Il y a beaucoup de choses écrites. Et c'était un conseil de Raymond Queneau qui disait précisément « Lisez. Vous allez dans la rue, lisez. » Et on trouve des choses curieuses. Je me fixe toujours des contraintes pour me déplacer. C'est à l'aide de ces contraintes que je vais pouvoir composer de la poésie. J'ai besoin de ça parce que comme je marche sans écrire, donc je compose dans la tête. Et si on a des contraintes, ça facilite les choses.
Tel Jacques Roubaud, est-ce que vous êtes un grand promeneur, un grand marcheur, Jacques Reda? J'ai vu que vous aviez un Solex et que vous avez fait beaucoup de promenades en Solex dans Paris.
Oui, je circulais beaucoup en Solex, aussi longtemps que ça a existé.
Mais c'était important ce mouvement, on en revient à la question de la poésie et du mouvement, circuler dans la ville, ça casse un peu l'image du poète enfermé chez lui qui écrit.
Malgré tout, pour écrire, il faut bien être enfermé chez soi.
C'est vrai.
Ça n'a rien à faire. Je ne sais pas pourquoi un jour quelqu'un se met à écrire plutôt qu'à peindre ou plutôt qu'à ne rien faire ou à gagner beaucoup d'argent. Ça aussi, ça peut être une vocation. Parce que les gens qui ont gagné beaucoup d'argent, c'est parce qu'ils n'avaient pensé qu'à ça. Bon, alors, j'ai écrit beaucoup de livres et qui ont rapporté peu d'argent. c'est le mouvement, c'est ce que j'appelle le rythme.
Voilà. Mais à la question, pourquoi écrivez-vous? Vous parlez de vocation. Est-ce que vous diriez, comme d'autres l'ont dit, incapable de faire autre chose ou
non, pour
capable
pour
ne faire
pour
que ça?
Pour pouvoir fumer tranquillement.
Pour pouvoir fumer tranquillement, oui. Pourquoi hein? Vous ne pouviez pas fumer tranquillement?
Mais parce que maintenant, on emmerde du fumeur à longueur de journée. Alors, évidemment, c'est peut-être dangereux pour beaucoup de gens. Ça a peut-être été nocif pour moi aussi, mais en même temps, ça a beaucoup d'avantages. Je considère avec tristesse l'augmentation régulière du tabac. Ça veut dire qu'un jour, il n'y aura plus que les gens pleins de fric qui pourront fumer. Parce qu'ils ont les seuls à pouvoir s'acheter des cigarettes. Alors que la cigarette, c'est important. Il y a des gens encore aujourd'hui qui bouffent mal, qui n'ont pas à manger. Et une cigarette, ça peut remplir. J'en sais quelque chose. Ça peut être utile. Le tabac est un ennemi peut-être, mais c'est aussi un ami. Je suis ravi quand je donne un petit billet à Clodo, un type qui est un peu dans la mouise. Et que je le vois aller au bureau de tabac, ben je dis, ah, voilà, il aura peut-être pas de sandwich, mais il aura ses deux ou trois cigarettes.
Jacques Reda, vous êtes l'un des grands poètes français, donc forcément pas très grand public. Non. Est-ce que vous pensez qu'il y a une fatalité comme ça, une méconnaissance de la poésie contemporaine dans la société actuelle?
Non, mais je vous dirais franchement que ça doit ressortir aussi des conclusions de ce livre dont on parle, c'est que les gens ne s'intéressent plus à la poésie parce qu'elle est devenue pas intéressante. Il faut bien voir. Reprenons les choses. Le verre disparaît. Le verre était un bien commun, inventé par personne. Il n'y avait pas de droit à payer quand on écrivait des vers. C'était le bien commun des poètes. Chacun y mettait son empreinte. Ceux qui manquaient de force ou n'ont laissé que peu d'empreintes, écrire des vers réguliers, c'est très facile. On en a écrit des millions. Combien sont restés dans notre mémoire? On parle des grands poètes. Ben, c'est ceux qui ont imprimé une personnalité particulière. Alors, on ne confond pas un vers de Baudelaire, un vers de Victor Hugo, un vers de Villon, un vers de Dubellay. Il n'y a rien à faire. Avec un minimum d'écoute, on y parvient. De même qu'on ne confond pas Louis Armstrong avec Dizzy Gillespie. Et donc, il s'est passé que l'impossibilité où s'est trouvée la langue, à un moment, avec Rimbaud. Qu'est-ce que dit Rimbaud? Rimbaud dit, il faut trouver un nouveau langage. Mais c'est pas un Pékin, même aussi génial et doué que Rimbaud, qui est capable de créer une nouvelle langue. Les langues se créent elles-mêmes, elles évoluent selon leurs principes. Il y a un déterminisme foncier dans les langues qui fait qu'elles vont dans un sens et pas dans l'autre. Et Rimbaud a considéré très vite, il a vu très vite qu'il ne pouvait pas. On parle toujours, pourquoi Rimbaud est-il parti? Ben c'est pour ça. parce qu'il n'y a pas moyen de trouver une nouvelle structure. Ce qu'il annonçait, c'est-à-dire les horribles travailleurs qui viendraient après lui, n'en ont pas trouvé non plus. Il n'y a plus de structure commune. Il n'y a plus de ce ver à la fois autocratique, puisqu'il fallait passer par là, mais démocratique, puisqu'il est à la disposition de tous. Et les poètes se sont trouvés devant la nécessité, à cause de cette transformation de la langue, de trouver leur structure à eux. Alors il y a quantité de petites structures personnelles qui coexistent, qui ne peuvent pas s'accommoder les unes des autres, et c'est ça qui déroute aussi la lecture.
Mais si la poésie n'est pas aussi reconnue aujourd'hui qu'elle n'a pu l'être, c'est pas, selon vous, à cause de la télévision, l'argent, la vitesse?
Non, pas du tout. Alors, il y a deux types de poésie. Il y a la poésie spontanée, naturelle, populaire. Hein, ça existait aussi, très belle. Toujours, en général, liée aux chansons, à la Claire Fontaine. C'est un poème magnifique, c'est une chanson formidable, sur le pont du Nord, enfin, il y en a des quantités. Et il y avait une élite, les gens qui savaient écrire, lire, qui disposaient, c'était l'élite, c'était l'aristocratie, et la bourgeoisie, les gens riches qui pouvaient s'instruire, c'était eux qui faisaient la poésie. Même à l'époque romantique, les grands poètes, Hugo, Vigny, des gens comme ça, venaient de l'aristocratie.
Et aujourd'hui?
Eh bien, aujourd'hui, il y a d'abord, l'aristocratie est une aristocratie dépourvue de toute culture littéraire, la culture marchande, je dirais, du fric et de la fabrication, là, a remplacé. Il y a qu'à voir les gouvernants, nos gouvernants depuis longtemps. Dans les années 30 encore, beaucoup de politiciens sortaient de l'école normale supérieure lettres. Quand ils sortent d'HEC ou je ne sais pas où. Et en même temps, il n'y a plus d'expression populaire. Elle a été capturée par les médias. Maintenant, les chansons sont fabriquées. Elles sont fabriquées de façon très étudiée pour qu'est-ce qui va plaire, qu'est-ce qui va marcher maintenant. Les succès sont préfabriqués, tout est comme ça. Il n'y a plus de source populaire. Il y a une chose qui a disparu, l'histoire drôle. On vous en raconte beaucoup. Moi, il n'y avait pas de semaine où au téléphone, les gens me disaient « Ah bah tiens, on m'en a raconté une bonne ». Elles étaient quelquefois plus ou moins bonnes, hein, plus ou moins scabreuses. Mais il y en avait toujours d'excellentes.
Jacques Reda, on finit par une histoire drôle ou par un constat? Est-ce que vous êtes un homme finalement triste, un peu pessimiste de l'état du monde, ou au contraire vous gardez le bonheur de la vie?
Je pessimiste, il est possible que même mon âge fasse que, comme vous voyez, les vieux disent toujours « c'était mieux avant ». Dans un sens, c'était mieux avant pour eux, mais pour les autres, on ne sait pas. C'est mieux maintenant pour eux. Alors, non, je m'efforce d'être réaliste. On veut pas voir la réalité en face. Mais non, tout ça va s'arranger. Or, tous les jours, on découvre une catastrophe due à l'inconscience ou à l'imprévoyance de ceux qui ont inventé toutes sortes de conneries. Vous voyez, dire le mot, je parle en beau français.
Le mot du poète. Merci beaucoup, Jacques Reda. En tout cas, on peut lire de la poésie, on peut lire votre poésie et puis cet essai. Quel avenir pour la cavalerie, une histoire naturelle du vers français, édité chez Buchet-Chastel. De vive voix, Pascal Paradou, programmation Véronique Durand, Guillaume Ploquin à la réalisation. Merci à vous et à très vite.